Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, nous avons vraiment un Dieu mystérieux. Son nom même, auquel nous rendons un culte tout particulier aujourd'hui, la fête de la Très Sainte Trinité, son nom même, auquel nous sommes tellement habitués, depuis que nous sommes enfants, pour la plupart d'entre nous, nous autres chrétiens, de souche chrétienne, nous y sommes tellement habitués à ce nom de la Trinité qu'il nous paraît couler de source. Son nom, en réalité, est une énigme, la Trinité. Quand on regarde cela de près, ce que nous allons essayer de regarder un peu aujourd'hui, rien ne coule de source en réalité. Que le monde divin soit pluriel, l'esprit humain peut le concevoir assez aisément. C'est même la première voie, sans doute, qu'a emprunté l'intelligence humaine. C'est la voie la plus simple, à laquelle incline l'homme, le polythéisme en fait, devant cette réalité, devant le spectacle de la nature. Chaque phénomène un peu impressionnant de ce monde complexe, en réalité, qui entoure l'homme, chacun de ces phénomènes est interprété très facilement par l'homme comme la manifestation d'une divinité particulière. Le soleil, la lune sont des astres fascinants, eh bien, l'homme en fait des dieux. Que donc la divinité soit plurielle n'est pas très étonnant pour l'homme. Que la divinité soit une, et absolument une, cela n'est pas beaucoup plus étonnant pour l'homme. L'esprit un peu plus évolué que l'esprit polythéiste, c'est-à-dire celui des philosophes, par exemple, qui arrivent à établir qu'il existe un premier moteur non mu, une première cause universelle de toute chose, cela est également assez naturel à l'intelligence humaine. Et relayé en plus par la révélation juive, enfin la révélation primitive de Dieu à ce peuple élu. La grande affirmation de l'Ancien Testament, vous le savez, c'est « Je suis celui qui suis, je suis l'unique ». Et on ne cessera de rebâcher aux oreilles des juifs pour les arracher au polythéisme primitif, à cette facilité dans laquelle ils tombent devant la grandeur des astres, devant la grandeur des éléments naturels à tomber dans le polythéisme. Eh bien, en permanence, le vrai Dieu, Yahvé, devra leur rappeler qu'il est le seul, qu'il est l'unique. Ainsi donc, vous le voyez, il est normal, il est naturel pour l'homme, soit d'être polythéiste, de comprendre que la divinité est plurielle, soit d'être parfaitement monothéiste, mais d'un monothéisme monolithique, c'est-à-dire qui considère que Dieu est d'un bloc. Il est la cause première, il est celui qui est, et absolument d'un bloc. Ce qui est un peu difficile, ce qui constitue la ligne de crête du christianisme, vous le savez, ce qui nous surprend, c'est que Dieu, non seulement est unique, mais Dieu, en même temps, parce que c'est ce qu'il nous déclare, lorsqu'il se révèle à nous, dans son intimité, Dieu est trine. Que Dieu soit à la fois parfaitement un, et que dans cette parfaite unicité, il y ait une pluralité, voilà quand même qui est assez énigmatique. Et voilà ce qui donne le terme de trinité, la contraction de tri-unité, qui est, à mon goût, pardon, c'est un peu provocateur, j'essaie de vous réveiller de cette torpeur de fin d'année, trinité, c'est quand même un cache-sexe. C'est quelque chose qui sert à masquer ce qui est en réalité tout à fait révoltant pour notre intelligence, l'équation, la fameuse équation 1 égale 3. Voilà ce que cache le terme de Trinité, voilà ce qu'il cache assez mal. C'est une manière élégante de nous présenter cette équation parfaitement énigmatique. Alors vous me direz sans doute, mes chers frères, que pour vous, la Trinité ne pose pas de problème. Que ça va de soi, qu'en bon fils de l'Église, vous acceptez ce dogme, bien sûr, vous avez été ondoyé, vous avez été plus que ça, lavé du péché originel au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, conformément à l'ordre du Seigneur Jésus. Vous croyez pouvoir déceler à tout bout de champ dans le Nouveau Testament l'affirmation de l'existence de la Trinité, et voilà, cela n'est pas une difficulté pour vous. Alors, je me permets quand même de vous rappeler que les choses ne sont pas exactement comme vous le croyez. D'abord, ouvrez, ayez la curiosité d'ouvrir le Nouveau Testament quand vous rentrerez chez vous, et dites-moi combien de fois on emploie le terme de Trinité. Jamais. Dites-moi combien de fois on affirme la coexistence en Dieu de trois personnes. Pas très souvent. Vous verrez, c'est assez frappant. On vous affirme l'existence d'une pluralité en Dieu, c'est clair. On vous affirme qu'il existe deux personnes, le Père et moi, nous sommes un. On vous affirme parfois qu'il y a en plus du Père et du Fils un Saint-Esprit. Je vous enverrai l'Esprit Paraclet. Mais qui nous dit que c'est une personne, cet Esprit-là? Ça peut très bien être l'Esprit de Jésus, tout simplement. On ne vous affirme en réalité la réalité de la Trinité qu'une seule fois, de manière vraiment probante, lorsque Jésus annonce qu'il faut baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la vraie, seule affirmation de la coexistence de trois personnes dans cette unique divinité. Vous voyez que ça fait quand même assez peu. Et on comprend que dans ces conditions, l'Église primitive, c'est-à-dire les grands théologiens des premiers siècles, est peinée à dégager davantage de certitude quant à cette Trinité. C'est pour ça que, selon les mœurs de l'époque, on a coupé la tête et on a pendu un certain nombre de théologiens hérétiques ou semi-hérétiques. Vous voyez que cette réalité de Trinité, tout ce que nous avons comme conviction, nous, fils gâtés de l'Église du XXIe siècle, n'allait pas du tout de soi dans les premiers siècles. Plus profondément, je remets encore en cause votre facilité spontanée à dire « oui, mais la Trinité ne pose aucun problème ». La Trinité, peut-être, ne vous pose aucun problème, mais je reprendrai là la critique de Rahner, car Rahner, qu'on ne peut pas suivre sur tous les terrains, il est allé un peu loin parfois, mais qui là fait une critique tout à fait sensée de notre pratique, de notre dévotion. Nous sommes chrétiens et nous confessons la Trinité, mes frères, bien sûr. Chaque dimanche, nous récitons le credo, qui est un symbole trinitaire. À chaque fois que nous commençons le chapelet, nous commençons par le symbole des apôtres. À chaque fois que nous avons l'aspergès, par exemple, ou l'introïte, nous nous inclinons au Gloria Patri, qui vénère les trois personnes. Et pourtant, concrètement, est-ce que nous vivons comme si Dieu était effectivement trois personnes, ou est-ce que nous n'avons pas cette tendance à ne nous focaliser que sur une personne, faisant en sorte que, finalement, tout en confessant la Trinité, nous ne faisons que comme si Dieu était une seule personne? Très honnêtement. Certains d'entre nous se concentrent uniquement sur la personne de Jésus. D'autres ont une dévotion très particulière pour le Saint-Esprit. Et d'autres sont plus inclinés à vénérer le Père. Mais qui d'entre nous, chaque jour, s'adresse au Père et au Fils et au Saint-Esprit, distinctement? C'est en face que nous demande quand même la doctrine catholique. Que nous confessions la Trinité et que nous ayons une vénération, une relation de personne à personne, avec chacune des personnes précisément de la Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. La critique de Rahner, je synthétise en réalité, c'était de nous dire que tout en confessant la Trinité, nous étions en fait des idolâtres, et que nous avions cette tendance à revenir au monothéisme monolithique, comme s'il n'y avait qu'une personne, des Juifs, ou au monolithisme des musulmans. Vous voyez que c'est une critique qui porte et qui doit nous amener à un certain examen de conscience, non pas pour nous faire peur, non pas pour nous traîner dans la boue une nouvelle fois, mais pour que nous puissions vraiment avoir une foi trinitaire et une relation personnelle avec chacun des trois. Parce que c'est ce à quoi nous invite le Seigneur Jésus et c'est ce que veut la Trinité pour nous. Que Dieu soit trine, mes frères, c'est un grand mystère et notre volonté d'efficacité, c'est-à-dire de pouvoir rendre raison de chacun des mystères avec notre petite intelligence, la patine totalement. Nous pouvons essayer de rendre raison, c'est-à-dire intellectuellement seulement, de l'incarnation. Oui, il fallait que Dieu devienne l'un d'entre nous pour qu'on puisse le toucher, le voir, expérimenter, entendre de lui la révélation. Bon, il y a une certaine logique, il y a une certaine convenance dans l'incarnation de Dieu. Mais quant à la Trinité, au fait qu'il y ait trois personnes qui de toute éternité régissent le monde, et même avant l'existence du monde, soient là, dans une communion parfaite d'amour, nous ne pouvons absolument pas en rendre raison. Pourquoi Dieu ne serait question de petits enfants au catéchisme régulièrement? Pourquoi Dieu est trois plutôt que deux, plutôt que quatre? Mes amis, je suis navré de vous apprendre que je n'ai pas la clé. Aucun argument de convenance ne permet de justifier la coexistence en Dieu de trois personnes. Ce qui est certain, c'est que cette pluralité en Dieu donne une fécondité à Dieu. Donne un dynamisme en Dieu. Nous vénérons mes frères, et c'est une grâce que nous ne sondons pas suffisamment. Nous vénérons un amour entre trois personnes que les juifs, que les musulmans n'ont pas la chance de connaître. Vénérer un dieu qui est monolithique, qui est d'un bloc, c'est vénérer quelqu'un qui est de marbre, en quelque sorte. Vénérer une trinité, c'est vénérer un être qui est tout don de soi. Vous voyez, chacun des trois est parfaitement donné aux autres. C'est vénérer un Dieu qui, nous le dit Saint Jean, qui est amour. L'amour ne naît, ne jaillit que lorsque plusieurs sont réunis. C'est ce qui se passe dans la Trinité, et c'est dans cette intimité de la Trinité que Dieu nous demande d'entrer. Alors je m'arrête là parce que j'en ai déjà trop dit. Je demande à la Trinité de vraiment imprimer dans votre cœur, parce qu'elle est là, cette Trinité. Si vous êtes en état de grâce, la Trinité tout entière, Père, Fils et Saint-Esprit, est dans votre cœur, dans votre âme, comme dans un temple. Sondez combien cela est magnifique. Et les processions éternelles, ces relations d'amour mutuel du Père, du Fils et du Saint-Esprit, se reproduisent en vous à petite échelle. La continuation des processions éternelles au fond de votre âme, au fond de votre cœur, voilà ce qui se passe en ce moment même et qui va être renouvelé par le sacrement de l'Eucharistie. Et frères, je crois que c'est cela, le cœur du mystère chrétien, c'est vraiment cela qui doit focaliser notre attention et c'est cela que nous devons avoir à cœur d'annoncer simplement mais sereinement à nos frères qui n'ont pas la chance de connaître ce trésor-là de la communion des trois et de cette communion des trois qui vient dans notre âme par le biais de la vie sacramentelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.